prêtrise à l'âge de 22 ans. Son histoire familiale aurait dû pourtant le mettre en garde sur l'obligation de célibat.
Ce lieu, il est marqué un peu d'un poids familial, d'un secret de famille. Dans cette tombe se trouve ma grand-mère biologique. Elle est religieuse, elle a un enfant avec un prêtre, un religieux. Il y a un système organisé par l'archevêché. Hein. Un enfant qui est né dans un cadre illégitime, comme ma mère, doit être mise à l'adoption. Ma mère est recueillie donc dans une congrégation religieuse, donc séparée de sa propre mère biologique.
Marc a découvert cette tragédie familiale à l'âge de 17 ans, lorsqu'il annonce à sa mère qu'il veut devenir prêtre.
Ma mère s'est effondrée, quoi, au moment où je lui ai dit ça. Puis on se retrouve dans la cuisine après le dîner. Là. Et puis ma mère me révèle ce secret là, familial. Je pense qu'il y a une angoisse terrible à ce moment-là par rapport au choix que je fais. Est-ce que c'est de l'ordre de la malédiction? Oui, peut-être. Est-ce que c'est de l'ordre de... Il rentre dans une institution qui fait mal.
Marc est entré au séminaire. Il n'a pas entendu la défiance de sa mère à l'égard d'une institution qui oblige à l'hypocrisie.
Pour moi, ce qui est mal, c'est d'obliger à cacher, c'est d'obliger à exiler, c'est obliger à ne pas être en vérité. Le vrai péché, c'est le péché du mensonge, quoi, finalement. Et là, l'Église institue un péché de mensonge.
Marc est devenu prêtre. Le voici devant Dieu qui prononce ses vœux. Pauvreté, obéissance et célibat. Marc est consacré. Son ministère sera exemplaire, il respectera son obligation de chasteté. Tenu 15 ans. En 2017, il a rencontré Ingrid, une fervente paroissienne, à l'occasion du baptême de son cinquième enfant.
Moi, je vivais avec le père de mes enfants et c'était très compliqué depuis très longtemps, avec notamment de la violence et... Pour moi, c'était un lien, qui est considéré comme indissoluble. Enfin...
Et moi, j'ai tout le poids de l'interdit, c'est vrai, hein, de l'institution qui vient me peser, on va dire, sur la tête.
Deux ans, le prêtre et la femme mariée se sont efforcés de rester amis.
On était tous les deux, et puis on venait d'échanger, de parler, etc. Je l'ai embrassé.
Oui, ce premier baiser, c'est un tsunami.
J'étais super mal, enfin, c'était terrible, quoi. Je suis rentrée ici et je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à Marc en disant, écoute, je suis désolée, faut pas prendre en compte ce qui s'est passé, là, parce que je suis... Et Marc, tu m'as tout de suite répondu en me disant, non, il faut savoir accueillir...
Ce qui doit être vécu. J'ai appris à accueillir mon désir qui était d'être aimé et d'aimer et que c'était comme une sorte d'évidence.
Un an après son premier baiser, le couple vit toujours une relation cachée. Mais dans la paroisse, cela commence à jaser. Ingrid est responsable de l'aumônerie. Elle se confie à un père supérieur, ami.
J'ai pris un café avec un prêtre, ce qu'on appelle les prêtres aînés, en fait, âgé du diocèse. Il dit on est tous au courant hein, que 5, plus de 50% des prêtres ont des compagnes ou des compagnons. Et il me dit, mais tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une grande comédie.
Respecter le célibat, S'obliger à la chasteté est une mission sacrée qui plonge de nombreux prêtres dans un enfer humain. Tout au long de ses 30 ans de prêtrise, Bernard a été livré à lui-même pour affronter cette épreuve.
Malheureusement, pendant toute ma formation, et même après, toutes les questions qui touchent aux mœurs, au célibat, ce sont des questions taboues. Donc ça n'a pas été abordé. La seule question qui m'a été posée pendant ma deuxième année de séminaire, c'était à Poitiers, est-ce que tu te masturbes ?
Et ça s'est arrêté là ?
Oui, pas plus. Après, j'ai été nommé vicaire à Marmande pendant 9 ans, c'est là où j'ai créé mon groupe de scouts. Ensuite, après ces 9 ans, j'ai été envoyé à Paris. Et là, ça a commencé à déraper. Pendant cette période parisienne, une ancienne amie qui m'avait demandé un mariage, j'avais refusé. Elle m'a recontacté pendant cette année parisienne. Et là, j'ai consommé avec elle. C'était mon premier dérapage. J'étais mal à l'aise, donc j'ai contacté un dominicain pour aller me confesser. Et ce bon confesseur était, je ne sais pas s'il était bien végan ou... Enfin, il n'a pas été d'une aide très précieuse, me disant, ben, mon bon ami, tu as ouvert une brèche, tu vas continuer. Et puis, effectivement, j'ai continué. Et pendant cette année parisienne, j'ai vu cet ami assez régulièrement. Et puis après, je suis allé voir mon père spirituel, parce que chaque prêtre a un conseiller, et pour faire le point avec lui, parce que je n'étais pas à l'aise avec mon célibat. Et c'est là que je me suis aperçu que lui-même, ben, il avait une amie. Et là, ben, j'ai arrêté. Arrêté de faire le point avec lui, et très déçu par sa propre incertitude. On va appeler ça comme ça. Pour le veuille ou non, on se rend compte que quand on est prêtre, on donne beaucoup, on reçoit peu, et la solitude était difficile à vivre. Curieusement, vous savez, quand on est prêtre, on reçoit beaucoup de sollicitations. Et là, bon, j'ai accepté, effectivement, des rencontres. C'était une forme d'équilibre que je trouvais et qui me permettait de vivre mon ministère. En réfléchissant, c'est ce que je comprends, c'est que j'avais besoin de m'échapper un petit peu de ces relations affectives, charnelles, et parce que ça me permettait de vivre le reste, en fait.
Pendant 25 ans, Pierre s'est refusé à ses échappatoires. Cette discipline l'a plongé dans une grande souffrance affective.
Moi, ce qui a aussi été difficile, c'est de ne pas vraiment pouvoir partager mon ressenti, mes émotions, mes interrogations avec quelqu'un d'intime. Il y a presque la certitude ou la conviction que, en face, les autres vont dire « Oui, mais tu t'es engagé au célibat, donc tiens bon, c'est un combat, c'est le diable qui te mène. »
En 2009, à l'occasion d'une retraite spirituelle, Pierre va découvrir qu'il n'est pas seul à éprouver un vide affectif et charnel.
Je participais à un rassemblement de prêtres, à une retraite de prêtres qui venaient du monde entier. Un des soirs, il y avait un temps de confession. Et donc, on m'avait demandé, avec d'autres, de participer pour accueillir ceux qui voulaient se confesser et donc donner le pardon à ceux qui le voulaient. Et je me souviens que les prêtres qui sont venus me voir, qu'ils soient de langue française ou anglaise, je pense à plusieurs Américains qui étaient là, je dirais, si je devais prendre une statistique, 90% des prêtres qui sont venus vers moi, enfin 9 sur 10, ce qu'ils confessaient en premier, c'était des problèmes avec leur équilibre affectif, sexuel. Moi, ça m'a fortement touché en me disant, mais à quel point il y a de la misère pour ces prêtres et pour nous, je dirais peut-être pour beaucoup de prêtres.
Une croyante va sortir Pierre de son chemin de croix. Christine, qu'il a épousée en 2012, après 10 ans de relations platoniques.
Christine était toute seule, elle élevait seule ses enfants, jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne frapper à la porte. Elle était très, très malheureuse.
J'avais jamais vraiment parlé à ce prêtre, mais je ne sais pas pourquoi. Ma main m'a guidée vers l'annuaire. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez me recevoir ?»
Elle s'est livrée à moi, je l'ai écoutée.
C'est la première fois de ma vie que je me sentais autant écoutée et surtout pas jugée.
Et puis à partir de là, commencer ben, du coup un peu comme un accompagnement spirituel.
Nous avons beaucoup parlé, beaucoup parlé, jusqu'à ce que ben, finalement on se rende compte que notre amitié était un peu plus qu'une amitié.
Je ne voulais pas mettre de mot amour, parce que si je mettais le mot amour, je pense que ça voulait dire, bah, du coup, je renonce finalement à ma vie de prêtre pour prendre un autre chemin avec Christine. Et je pense que je ne voulais pas faire ce changement.
Vivre une vie cachée, moi, enfin, l'un comme l'autre, c'était exclu. Donc il restait une dernière solution, c'était que Pierre quitte le ministère et que nous vivions une vie de couple ordinaire. Mais alors là, c'était un grand saut dans le vide.
Descendre de l'autel pour rejoindre le commun des mortels, peu de prêtres trouvent la force d'accomplir ce déchirement.
Nous reconnaissons que nos cœurs sont souvent pris par des bruits, sont souvent dispersés, divisés.
Ce sont souvent les circonstances qui les poussent à quitter leur ministère. Dans la paroisse de Villepinte, où il a été muté, Marc célèbre l'une de ses dernières messes. Après un an de vie commune avec Ingrid, sa hiérarchie a découvert, en juin 2020, sa relation amoureuse.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Je vais voir mon évêque et je lui dis « j'ai envie de prendre du recul ». Il me dit « j'ai reçu une lettre anonyme me disant que tu es proche d'une certaine Ingrid sur ta paroisse ». Donc là, bah, je dis « oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je dois réfléchir ». J'ai l'impression qu'à ce moment-là, mon évêque, il dit « c'est pas très sérieux, il va changer d'avis ». Donc en gros, il m'envoie à la paroisse qui est la plus loin en distance géographique de là où elle vit. Et puis, oui, aussi une chose assez classique dans l'Église, c'est il m'invite à être à un accompagnement psychologique, étant supposé qu'il y aurait un déséquilibre psychologique dans le fait d'aimer quelqu'un.
L'évêque de Marc semble ne pas l'entendre et lui pose une question qui relève du déni.
Es-tu bien chaste dans cette relation avec elle? Tu m'invites à la chasteté. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose, quoi, qu'on est sur deux planètes différentes. Comme ça fait des années qu'on ne peut pas parler du sujet de l'amour concret et de l'amour avec entre un homme et une femme, ben, là j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas du tout. Bon, là je dis, de toute façon pour moi les choses sont claires. Je ne veux pas vivre clandestinement avec Ingrid et donc du coup la conséquence est je vais quitter mon ministère.
Au printemps 2021, Marc a renoncé à la prêtrise. Pierre aussi s'est expliqué avec son évêque. C'était en 2010, lorsqu'il a pris la décision d'abandonner son sacerdoce pour vivre au grand jour avec Christine.
Il m'a conseillé de faire une retraite spirituelle, de voir un psychologue qui pourrait aussi m'aider. Parce que le prêtre, il n'a pas à se tourner vers une femme, il est tourné vers Dieu. C'est, j'irais, logique de sa part, parce qu'il veut me tenir, me retenir. Le vicaire général m'avait dit, on n'a pas les moyens de laisser partir un prêtre. Voilà, on a besoin de prêtres et il faut que tu restes. Voilà.
L'amour d'une femme ne saurait priver l'Église d'un prêtre. Quelques semaines plus tard, l'évêque s'est invité au domicile du couple pour lui administrer une punition divine.
Il vient un après-midi en semaine, bon, il s'est assis à la cuisine, J'avais l'heure du micro-ondes qui était juste en face de mes yeux, donc j'ai vu que c'était 16 heures quand il s'est assis. Et donc je sais qu'il est resté 22 minutes, puisqu'à 16h22, il repartait.
Il était très en colère parce que Pierre habitait sur son ancienne paroisse, chez une femme divorcée.
Voilà, son discours était de nous culpabiliser. Mon attitude était un scandale. J'aurai à rendre compte devant Dieu de mes actes. Dieu me jugera.
Et que moi, j'irai en enfer. Pour moi qui suis croyante, l'enfer, c'est quand même pas rien. Bon, en des temps anciens, je pense que j'aurais fini sur le bûcher. Donc nous avons été vraiment très ébranlés par cette visite.
Ce qui nous a surpris, c'est que dans les mois qui ont suivi, l'évêque a organisé plusieurs conférences dans le diocèse sur le sujet du célibat des prêtres. Donc ce qui montre que lui-même a été ébranlé et a voulu mettre comme un frein et éviter que les paroissiens, que les croyants prennent fait des causes pour que les prêtres puissent se marier. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il a voulu anticiper tout cela et mettre le haut là et rappeler les règles de l'Église.
Pour moi, le célibat ne doit pas être obligatoire. On ne peut pas faire abstraction de son corps, d'un corps marqué par une sexualité. Le Christ nous demande d'être des hommes et des femmes libres, autonomes, choisissant vraiment pleinement le Christ. Du coup, certains ils sont appelés au célibat, d'autres ne le sont pas.
Membre de l'Académie pontificale pour la vie, Marie Jotil ne cesse d'encourager le Saint-Siège à libérer les prêtres de l'interdit charnel.
Le fait que, comme prêtre, je puisse être tombé amoureux d'une femme, qu'est-ce que je fais avec cela? La norme, elle écrase l'autre. La norme, elle n'est pas supportable. L'Église a mis en place une norme, elle peut en mettre d'autres. Donc, il faut vraiment reprendre cette question du célibat, la question du mariage possible des prêtres, la question d'ordination des hommes mariés.
Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zur Qual, denn spricht nur immer von Moral.
Face à une discipline qu'elle sait intenable, l'Église catholique n'a pas d'autre choix que de s'accommoder des amours de ses prêtres. Outre-Rhin, les responsables du diocèse de Wolfgang ont fermé les yeux pendant 25 ans. Ils ont laissé son couple s'épanouir discrètement au sein de l'Église jusqu'en 2012, où ils se sont retrouvés contraints d'en parler.
Liebe kann nicht Sünde sein, doch wenn sie es wäre, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein.
En 2012, dans le cadre de l'entretien annuel, l'évêque auxiliaire responsable m'a posé cette question. Wolfgang, nous avons reçu une lettre disant que tu vivais avec un homme. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Non, je n'ai rien à dire à ce sujet. Je n'avais pas besoin de mentir, alors je n'ai rien dit. Deux minutes plus tard, l'évêque auxiliaire, qui était aussi l'un de mes collègues depuis le séminaire, me dit « Wolfgang, tu as bien une maison dans le village avec Peter Bubmann ?» Je lui ai dit oui. Puis il a dit « Nous avons décidé de ne pas suivre cette affaire, de la laisser en suspens. » C'était pour moi une déclaration très intéressante de la part de l'évêque.
Le fait est que l'évêque et l'administration de l'Église catholique romaine ne voulaient pas vraiment s'en occuper, car ils ont besoin de chaque prêtre. Et si l'on commence par un seul, la moitié des prêtres du diocèse auraient probablement dû s'arrêter.
L'Église l'Église tolérerait-elle en son sein une homosexualité qu'elle considère comme contraire à la loi naturelle? En Italie, un sociologue confesse la sexualité des prêtres depuis près de 15 ans. Ce chercheur spécialiste de l'Église catholique a récemment publié « La caste des chastes », une étude qui affirme que l'Église catholique constitue un refuge pour les homosexuels.
Les homosexuels sont partout dans l'Église, et en nombre très important. Certains sont allés jusqu'à dire que la majorité des prêtres sont homosexuels. Je ne veux pas commenter ces chiffres, ces nombres, mais répéter que le clergé homosexuel est une réalité. Nous sommes ici confrontés à un fait paradoxal. D'une part, l'Église est clairement une organisation qui condamne l'homosexualité. Sur le papier, un garçon ayant des tendances homosexuelles évidentes devrait être retiré du séminaire parce qu'il ne peut pas devenir prêtre. C'est ce que Ratzinger a dit et répété. Et le pape Bergoglio, le pape François, l'a également dit et répété. Et d'un autre côté, l'Église est un environnement très accueillant pour les homosexuels. Les rangs du clergé sont remplis d'homosexuels parce que le milieu clérical